Radio Prague, les informations. Bonjour, l'économie tchèque a enregistré une croissance de 1,7% en 2011. Aide sociale à l'enfance, le nombre de familles d'accueil est très insuffisant en République tchèque. Et puis enfin viticulture, 2011 a été une année supérieure à la moyenne. Comme annoncé en titre, l'économie tchèque a donc enregistré une croissance de 1,7% en 2011. Tel est le principal enseignement qui ressort des données provisoires communiquées ce mercredi par l'Office national des statistiques. Au cours du quatrième trimestre, le taux de croissance du PIB a augmenté de 0,5% par rapport à la même période en 2010. Toutefois, il a également baissé de 0,3% par rapport au trimestre précédent entre juillet et septembre. Pour l'ensemble de l'année 2011. Il s'agit donc d'un ralentissement puisque en 2010, l'économie tchèque avait affiché une croissance de 2,2%. Rappelons que pour 2012, seule une très faible croissance, légèrement supérieure à 0%, voire même égale à 0%, est prévue en République tchèque. La recherche et l'engagement de familles d'accueil prêtes à accueillir chez elles des enfants en difficulté sont insuffisants en République tchèque. C'est ce que reprochent 26 organisations nationales chargées de l'aide sociale à l'enfance. Selon une des responsables de l'association Amaltea, les démarches entreprises pour appeler, expliquer et motiver des familles à accueillir des enfants sont très insuffisantes. Aujourd'hui, on attend que quelqu'un vienne et en fasse la demande, a regretté la même responsable. Selon les projets du ministère du Travail et des Affaires sociales, entre 300 et 500 familles d'accueil devraient être disponibles dans tout le pays dans un proche avenir. Un nouvel amendement qui doit encore être adopté par le Sénat prévoit de modifier en profondeur le système d'aide sociale à l'enfance. Actuellement, environ 11 000 enfants grandissent dans divers centres d'accueil. La République tchèque est régulièrement critiquée par les organisations internationales en raison de ce nombre trop important. Politique. Depuis la validation la semaine dernière par le Sénat de l'amendement à la loi constitutionnelle sur l'élection présidentielle au suffrage universel, les sondages se multiplient afin de savoir lequel des potentiels candidats a le plus de chances d'être élu par les citoyens tchèques. Selon la dernière enquête menée par l'agence Factum Invenio et rendue publique ce mercredi par l'agence de presse CTK, aucun des candidats pressentis pour succéder à Václav Klaus en 2013 n'obtiendrait la majorité des voix au premier tour. L'ancien Premier ministre et candidat hors parti Jan Fischer arriverait toutefois en tête avec près de 25% des voix, suivi de Jan Schweinar. Candidat malheureux aux élections présidentielles en 2008, Jan Schweinar recueillerait près de 15% des suffrages. Par ailleurs, les autres candidats affiliés à des partis politiques obtiendraient quant à eux moins de 10% des intentions de vote. 2011 a été une année favorable pour les viticulteurs tchèques. Ceux-ci ont en effet récolté un total de 91 000 tonnes de raisins, soit le double par rapport à 2010, année catastrophique cependant. Environ 16 000 hectares de vignes sont cultivés dans le pays. Les chiffres ont été publiés ce mercredi par l'Office national des statistiques. Selon la Fédération viticole tchèque, le millésime 2011 sera également de très bonne qualité. 670 000 hectolitres de vin ont été produits, soit environ un tiers de la consommation annuelle en République tchèque. On passe au sport et hockey sur glace. Jaromír Jágr, probablement le meilleur joueur de l'histoire du hockey tchèque, a fêté ses 40 ans ce mercredi. Toujours en activité dans la prestigieuse ligue nord-américaine NHL, sous le maillot des Flyers de Philadelphie, l'attaquant tchèque au symbolique numéro 68 possède un des plus beaux palmarès du hockey mondial. Champion olympique en 1998 et double champion du monde en 2005 et 2010 avec la République tchèque, Jaromír Jágr a également remporté deux coupes Stanley aux côtés de Mario Lemieux avec Pittsburgh au début des années 90. Sacré 10 fois meilleur joueur tchèque de l'année depuis le début de sa carrière, Jaromír Jágr a, au niveau des récompenses personnelles, également été désigné 3 fois meilleur joueur de la saison en NHL par les joueurs et 1 fois par les journalistes. Il a également terminé 5 fois meilleur marqueur de la saison régulière, toujours en NHL. On termine avec un mot de météo après une journée de mercredi très nuageuse et marquée par des chutes de neige. C'est un temps variable avec des éclaircies de plus en plus franches au fil de la journée qui règnent sur l'essentiel du territoire ce jeudi qui est le jour de la fête des Liuba. Les températures varient entre moins 2 et 2 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme, une suite qui vous est présentée par Paul Bauer. faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci à Guillaume Narguet pour ce bulletin d'information et bienvenue à l'écoute de l'actualité sur Radio Prague. Au sommaire d'aujourd'hui, une exposition itinérante sur les traces du totalitarisme réalisée par des écoliers de la République tchèque est présentée cette semaine à Jáchymov près de Karlovy Vary. Les employés étrangers travaillent plus mais gagnent moins que les Tchèques, c'est ce qui ressort d'une récente étude menée par le Centre pour l'étude de l'opinion publique. Enfin en histoire, nous vous proposons un reportage rediffusé du 22 décembre 2010 sur l'église de Lomé, située à 130 km au sud-ouest de Prague, un haut lieu de mémoire et de recueillement. Bonne écoute. Alors que plus de 22 ans nous séparent de la chute du régime socialiste tchécoslovaque, l'histoire de ce régime et les crimes commis par les dirigeants socialistes à l'encontre de la société civile restent mal connus des jeunes de la génération née après 1989. C'est à partir de ce constat qu'un projet de recherche sur l'expérience du totalitarisme en Tchécoslovaquie a été mené par de jeunes lycéens de différentes régions de la République tchèque. Les résultats des enquêtes ont été présentés dans le cadre d'une exposition itinérante à partir de ce lundi dans la ville de Jáchymov, près de Karlovy Vary, à l'ouest de la Bohême. Les jeunes de plusieurs établissements scolaires de la République discutent dans la salle du musée de Jáchymov en attendant la présentation des différents témoignages qu'ils ont recueillis dans le cadre du projet intitulé « Les traces du totalitarisme » et qui expose sur plusieurs panneaux le vécu de ceux qui ont été victimes de la dictature du régime socialiste. Financé par le ministère de l'Éducation grâce aux fonds européens, le projet a vu le jour sous la forme d'une association citoyenne appelée « Les Oubliés ». Marta Vanchurova est la responsable du projet. Elle rappelle que le travail réalisé sur le totalitarisme a bénéficié de l'expérience acquise dans le cadre d'un projet antérieur intitulé « Les voisins disparus » et qui portait sur la recherche par des écoliers du destin des juifs de leur ville disparus de Levant durant la Seconde Guerre mondiale. Martin Vanchurova.
Nous avons souhaité réaliser ce projet car durant près de 10 ans, nous avions travaillé de matière méthodique et avec succès sur le projet Les voisins disparus. Nous voulions utiliser cette expérience pour des périodes ultérieures à la Seconde Guerre mondiale. Ce projet sur les traces du totalitarisme est ainsi né d'une réflexion sur le meilleur moyen de mettre à profit cette expérience.
Plus de 20 ans après la chute du régime communiste de Tchécoslovaquie, la transmission de certains épisodes du passé communiste du pays n'est pas toujours une chose acquise dans l'enseignement scolaire. Alors que les années 1950 ont été les années des purges, des emprisonnements politiques et des persécutions, ces années noires sont aujourd'hui mal connues de la jeune génération, notamment en raison de la relative autonomie de l'enseignement de l'histoire dans les écoles du pays. C'est ce que nous explique Tomáš Bohuška, l'un des étudiants en histoire de l'université Charles, qui a encadré le travail d'enquête réalisé par les écoliers. On l'écoute.
Le problème est que le traitement des thèmes de l'histoire se fait de manière individuelle. Dans certaines écoles, les enseignants s'efforcent de présenter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et les développements ultérieurs. D'autres s'arrêtent en 1945, et les écoliers n'ont pas la possibilité d'acquérir un savoir précis sur la manière dont la Tchécoslovaquie est née après la guerre, et surtout, comment était le régime communiste. À travers le projet de l'association Les Oubliés, nous essayons d'informer les élèves afin qu'ils prennent conscience que l'histoire du totalitarisme des 70 dernières années fait malheureusement partie de l'identité tchèque.
Équipés de caméras vidéo et de micros d'enregistrement, les écoliers du projet sont allés à la recherche de témoins de la période communiste afin de recueillir la mémoire de leur persécution. Marek Zaïds a 15 ans et étudie au lycée Sternberg dans le nord de la Moravie. Il s'est joint au projet car il s'intéresse à l'histoire récente de son pays.
Notre professeur nous a présenté le projet et nous a dit que si nous le souhaitions, nous pouvions y participer. Nous n'avons pas hésité longtemps avant de dire oui. Nous nous sommes intéressés au destin de M. Irgi Jaroslav Tilcher, qui est le grand-père de l'un de mes camarades. Nous l'avons enregistré à plusieurs reprises. Durant la période communiste, il n'avait pas eu le droit d'étudier car son père avait été accusé de profiteur du peuple. Pour s'informer, il écoutait Radio Europe Libre et Voice of America et il a été dénoncé par ses voisins. Nous souhaitons continuer de travailler sur cette thématique et attirer davantage l'attention des écoliers du pays. Je pense que ce projet a aussi du sens pour les prochaines générations.
Je pense que pour les générations, c'est plus que ça existe.
La présentation du vécu des victimes du régime communiste à Yakhimov est la première étape de cette exposition itinérante qui sillonnera le pays dans les prochains mois. Le choix de Yakhimov pour l'inauguration de l'exposition est lié au fait que la ville est devenue après 1989 le symbole de la répression politique qui s'était abattue sur la société au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 18 camps de travaux forcés y ont été ouverts dans les années 1950 et 70 000 personnes, dont la majorité de prisonniers politiques, y ont été internés. Depuis 3 ans, le nombre d'étrangers installés en République tchèque baisse progressivement. À la fin du mois de novembre dernier, ils étaient un peu plus de 406 000 à vivre légalement dans le pays. Le récent rapport du Centre pour l'étude de l'opinion publique, présenté mardi dernier, démontre que les étrangers, quelle que soit leur formation, sont employés en tant que main-d'œuvre peu ou non qualifiée et leurs revenus sont inférieurs à ceux des Tchèques, malgré un temps de travail plus important. Les détails avec Magdalena Rosinkova.
54 heures par semaine, tel est le nombre d'heures de travail de la majorité des Vietnamiens en République tchèque. Les Moldaves et les Ukrainiens, quant à eux, travaillent en moyenne 52 heures par semaine, comparé à la durée moyenne de travail d'un Tchèque situé entre 40 et 44 heures. Pourtant, la majorité des employés étrangers en République tchèque, essentiellement ukrainiens, vietnamiens, russes, moldaves ou ressortissants des pays de l'ancienne Yougoslavie, touchent un salaire mensuel inférieur de plusieurs milliers de couronnes à la moyenne nationale. Si les travailleurs étrangers en République tchèque envoient 16% de leurs revenus dans leur pays d'origine, les Ukrainiens ainsi que les Vietnamiens seraient les plus nombreux à soutenir financièrement leur famille, comme l'explique Yana Leontieva de l'Institut de sociologie de l'Académie des sciences, elle-même d'origine ukrainienne.
Évidemment, les étrangers qui ne sont pas en difficulté financière arrivent souvent en République tchèque avec leur famille. Notre étude a confirmé que malheureusement, les immigrés ukrainiens ou moldaves sont très nombreux à venir seuls, sans enfants ou sans conjoint. Ils arrivent avec l'objectif de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir soutenir leur famille dans leur pays d'origine.
Les Ukrainiens et les Vietnamiens représentent aussi la majorité des entrepreneurs étrangers issus de pays tiers. Les Slovaques, quant à eux, sont parmi les hommes d'affaires des pays de l'Union européenne les plus nombreux. Au total, les étrangers constituent 4% de la population du pays, ce qui place la République tchèque au-dessous de la moyenne européenne qui est de 6%. Depuis 2008, le nombre d'étrangers est en baisse, l'une des conséquences, selon les sociologues, de la récession économique. Craignant la hausse du chômage, le ministère tchèque du Travail et des Affaires sociales a décidé d'être désormais plus strict à l'égard des ressortissants des pays tiers et de rendre notamment plus sévères les règles d'obtention du permis de travail. Lucie Slatkova, qui dirige la filiale tchèque de l'Organisation internationale des migrations, ne croit pas à l'efficacité de telles mesures.
Je ne pense pas que le fait de ne pas prolonger le permis de séjour aux étrangers permettra d'embaucher plus de Tchèques.
Par contre, le nombre de ressortissants des pays de l'Union européenne pourrait dans le futur augmenter. Selon les statistiques, ils représentent un tiers des étrangers en République tchèque, mais leur nombre réel est probablement plus élevé.
Dans notre rubrique Histoire, nous vous proposons la rediffusion du reportage du 22 décembre 2010 sur Lometz. Ce haut lieu de pèlerinage en Bohême est un sanctuaire baroque à 130 km au sud-ouest de Prague, niché au milieu des forêts. Le pèlerinage marial s'y a développé depuis le XVIIIe siècle autour d'une statue miraculeuse de la Vierge Marie à l'enfant Jésus, qui est une copie de la statue originale de l'église Notre-Dame de Foix en Wallonie. Jarka Gisubelova a visité le lieu de mémoire et de recueillement où de nombreux pèlerins de toute la République tchèque et de pays voisins y affluent pour s'entretenir avec la sœur Mlada de l'histoire du sanctuaire. On l'écoute.
Chapitre de l'histoire.
L'histoire du sanctuaire de Lometz est liée à la maison de Bucquois. Charles, comte de Bucquois, et qui possédait un château dans la commune voisine de Libiejovice, a reçu la petite statue de la Vierge Marie de son beau-frère. La statue est de 20 cm de haut et est exposée au-dessus de l'autel, protégée par une vitrine. C'est une copie. L'original de la statue de la Vierge Marie, faite de terre cuite, a été découverte en 1609 par un bûcheron de Vanlin dans un chêne qu'il venait d'abattre. La découverte extraordinaire a conduit à une grande dévotion mariale, soutenue par quelques miracles qui se produisent. Ainsi, l'épouse du bûcheron, gravement malade, a été miraculeusement guérie après avoir prié devant ses statues. Plusieurs copies de la petite statue ont été faites avec le bois de ce chêne et l'une d'entre elles a été offerte au comte Bucquois.
Tak z kmene toho stromu dělali kopie a jednu z nich právě dostali Bukvojové.
Charles Bonaventure de Longueval, comte de Bucquois, né en 1571 à Arras et mort en 1621 à Novezemke en Slovaquie, fut un homme de guerre au service du Saint-Empire romain germanique. En 1618, il est chargé par l'empereur Ferdinand II de la répression du soulèvement de Bohême qui suit la défenestration de Prague. Le 8 novembre 1620, le comte de Bucquois commande une des armées victorieuses lors de la bataille de la Montagne Blanche, qui remporte la victoire sur les États tchèques. L'empereur le récompense en lui attribuant plusieurs possessions en Bohême, dont Libiejovice ou Rožmberk. Selon la légende, Charles de Bucquois avait la statuette sur soi au moment où un violent orage a failli balayer le bateau à bord duquel il voyageait de Rome en Espagne. Par reconnaissance d'avoir évité le naufrage, il a décidé d'ériger à Lomette, une colline sur le territoire de son domaine, un sanctuaire abritant la statue. Les travaux de construction ont été achevés par son fils Philippe Emmanuel, car Charles meurt subitement. Le maître autel, sous le baldaquin baroque au centre de l'église, richement sculpté, est une variation de l'autel créé par le sculpteur Borromini pour la basilique Saint-Pierre à Rome et représente un chef-d'œuvre du baroque en Europe centrale, observe la sœur Mlada.
Le maître-autel, soutenu par quatre piliers, est une copie en miniature de l'autel de la basilique Saint-Pierre du Vatican. Il existe trois copies de ce type d'autel sur le baldaquin Maroc. Parmi elles, l'autel de Lomets est le plus petit et, comme on dit aussi, le plus beau, car il est fait d'un bois richement sculpté et orné. La statue de la Vierge Marie est placée au-dessus de l'autel, dans le tabernacle. C'est une autre rareté à l'échelle de l'Europe centrale, car nulle part ailleurs, le tabernacle n'est accroché au-dessus de l'autel.
Jusqu'au 19e siècle, la construction de l'église de Lomets a été attribuée à l'architecte tchèque d'origine italienne Jan Blažej Santini Eichel. Or, c'est Emmanuel comte de Bucquois en personne qui a érigé cette église. La première pierre a été posée en 1692, puis les travaux ont été interrompus pour être achevés en 1702. L'église a été consacrée en 1704. Un an auparavant, le mariage d'Emmanuel Bucquois y a été célébré. À sa mémoire, on y garde le blason des Bucquois, trois rayons blancs sur un fond rouge. Un autre objet qui attire notre attention à l'intérieur de l'église, le chemin de croix, conçu par Wojciech Kafka pour être placé à l'extérieur sur le chemin reliant l'église et le cimetière. Le régime communiste l'a interdit et pour cette raison, les 14 stations du chemin de croix ornent les murs de l'église, explique la sœur Mlada. On l'écoute.
Parallèlement à la construction de l'église, les Bucquois ont érigé en face de celle-ci un petit château de chasse. Plus tard, ce château a abrité une école. Depuis 1971, il est le siège de notre ordre, la Congrégation des Sœurs Grises de l'Ordre de Saint-François, qui, en cette année-là, a dû quitter le couvent siégeant dans la rue Bartolomiejska au centre de Prague. la police a aménagé des locaux du couvent en salle d'interrogatoire. Les sœurs sont parties d'abord à Osek, puis à Lomet, où notre ordre est resté jusqu'à aujourd'hui. Dans les années 90, on nous a restitué notre ancien couvent dans la rue Bartolomnieska. Une partie des sœurs y est retournée et le couvent a pu être rouvert au culte.
A jsme to obnovili, ten klášter i kostel celý.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet www.radio.cz/.fr. Nasledanou.